Ce solitaire, alors déjà, était entouré d'amitié. Débutant dans cette vie poétique, où il apparaissait exemplaire, on avait, j'y songe, bien peu de scrupules à l'en distraire. De Lausanne, il fallait environ 1 heure de tram pour atteindre la ferme où il vivait. Jamais Roux n'était moins masqué, n'était davantage lui-même, et plus présent que là. Même le mouvement encore paisible, provincial, d'une ville comme Lausanne semblait le désemparer. Il lui fallait l'enclos de ses haies, l'enceinte de ses larges murs troués de fenêtres profondes, ses pièces basses, boisées, leurs étoffes et leurs papiers peints fanés, leurs meubles polis par le temps, toutes choses dans cet accord assourdi, grave, profond, que l'on retrouve dans les peintures d'Aubergenois, pour qui Roux a toujours professé la plus grande admiration, dans cette espèce d'atténuation discrète qu'exprime l'adjectif allemand leise, si difficile à traduire, suggérant les choses dites à voix basse, le pied posé sans bruit, et si cher à Trakl ou à Rilke. Il lui fallait cet abri immobile, devenu comme le centre de son paysage, et où rien n'a changé, je crois, de tout ce temps. Ni les meubles, ni les peintures silencieuses, ni les vases et les pots de terre brute, où il semble que ce soient toujours les mêmes fleurs qui viennent encore interposer leurs frêles barrières colorées, bleues, roses, jaunes, entre le dehors et la chambre. On imagine que Schubert, musicien à qui Roux est très sensible, a dû vivre dans de tels intérieurs, derrière ses carreaux où le givre, en hiver, dessine les cruelles merveilles dont parle un de ses lieds. Le soir tombait sans que la lampe fût aussitôt allumée. On avait tout le temps de sentir son lent déclin dans la maison. Bien qu'abrité, on percevait, tout proche, le monde élémentaire, dans sa constance, sa tranquillité, sa murmurante puissance. Les paroles allaient sans hâte dans l'air, comme des fumées. Les silences étaient pleins de leurs échos. Des livres s'ouvraient, comme s'ouvrent les cassettes dans les contes. C'était le coup de dé, aux grandes pages constellées, plus souvent encore les derniers volumes de l'édition Hellingrat de Hölderlin, sous leur reliure bleue et or, d'où l'on dépliait les facsimilés de manuscrits tardifs, eux aussi fourmillant de mots comme un négatif de la nuit. J'étais à l'âge où l'on respire les vins plus qu'on ne les boit. Une ivresse vague encore montait de ces pages feuilletées. L'avenir était sans limite. Peu à peu, c'est ce qui me frappe le plus maintenant, par degrés insensibles, une tranquillité recueillie gagnait les choses, le monde, le cœur, ainsi qu'une huile, semblable à cette lumière dorée qui se mêle silencieusement aux verdures des grands paysages peints. Le baume du crépuscule. Pas de débat, presque pas d'idée. Les poètes, Ramu n'avait cessé de le répéter, la rencontre de Ponge me le confirmerait plus tard, les tiennent en grande défiance. Et nulle pensée accordée, par l'hôte ou par le visiteur, au succès possible, improbable, même à la plus pure des gloires. Simplement se rebâtissait chaque fois l'espace nécessaire pour que les seules voix qui comptent fussent entendues. Puis on redescendait, sérieusement cahoté par les vieilles voitures de tram imprégnées d'odeurs de cigares froids, à travers la nuit. En réalité, tout ailleurs que dans un tram et dans la nuit, serrant parfois un livre prêté sur ses genoux, cassette à présent refermée, dans un monde devenu étrangement poreux à l'inconnu, comme une forêt peut l'être au ciel. Je n'ai pas raconté cela pour le vain plaisir de me glisser de biais dans ce livre, mais parce qu'il est peu de jeunes écrivains de Suisse française, depuis une trentaine d'années, qui n'aient fait ce même voyage que Roux appelait la traversée, sûrement sans se douter à quel point c'en était une, à partir d'un monde que l'adolescent devine truqué ou amputé, vers une sorte d'île où plus de vérité est maintenue.